Je voulais vous dire que j'avais ressenti une sorte de perplexité en préparant cette intervention, en étudiant les objectifs de cette session et le sujet proposé donc sur la place des femmes dans l'enseignement de l'histoire de la Troisième République, si on fait le lien avec les programmes de 2008 de l'école élémentaire. Quel intérêt pour cette approche pour ces programmes qui ne sont pas négociables, on a entendu ce matin. En effet, les programmes de 2008 sont sur ce point en rupture affichée avec ceux de 2002. Dans les programmes de 2002, les femmes avaient fait une entrée retentissante du cycle des approfondissements au cycle 3. Les documents d'accompagnement semblaient animés de la même volonté d'enseigner une histoire mixte, c'est-à-dire concernant à la fois les femmes et les hommes. Je cite. À chaque fois que cela sera possible, on souligne le rôle des femmes dans la vie publique en s'interrogeant sur leur faible place. De même, on s'attache à montrer dans tel ou tel événement ou dans le quotidien d'une époque le rôle de groupes plus anonymes, qu'ils soient sociaux, de genre, les femmes dans la Révolution. Exemple donné, je ne vous citerai pas parce que j'ai abrégé un peu mon propos, les héroïnes, entre guillemets, qui étaient citées dans ces documents d'accompagnement. Mais en fin de compte, on pourrait ironiquement justifier le thème de mon intervention par le lien du programme actuel, le lien entre le programme actuel et l'histoire enseignée sous la Troisième République. Les repères de l'histoire nationale, les dates et les personnages mis en valeur ont en effet été choisis principalement dans le registre politique et militaire. Cette histoire de France est dans une continuité rassurante qui sera lisible pour les élèves par la frise chronologique dont on a parlé ce matin. L'instruction civique et morale est de retour. Malgré ces paradoxes, donc, je vais essayer de traiter le sujet proposé. Alors, mon intérêt pour l'histoire des femmes en éducation est ancien. Responsable du service éducatif des archives départementales de la Loire en 1979, ça fait 30 ans, j'ai organisé une exposition accompagnée d'un catalogue intitulé « École et enfance ». Enfance était au pluriel, parce qu'on voulait souligner ainsi les différences sociales et sexuées dans la scolarisation primaire des filles et des garçons, en insistant alors sur la question des travaux à l'aiguille, de l'économie domestique pour les filles et sur l'organisation des bataillons scolaires pour les garçons. Le dépouillement exhaustif de la série T des archives départementales de la Loire m'avait permis de faire 3 constats. Premièrement, qui peuvent être encore utiles aujourd'hui, je pense, pour l'enseignement. Premièrement, un décalage chronologique entre les instructions officielles et certaines pratiques lisibles dans les comptes rendus des conférences pédagogiques cantonales. Deuxièmement, des différences spatiales de mise en œuvre des instructions entre, par exemple, le chef-lieu et les cantons ruraux, mettant à mal le portrait de l'âge d'or de l'école de la Troisième République au moment des lois Ferry. Ce constat est aujourd'hui devenu banal, sauf dans certaines invocations politiques. Troisièmement, la laïcisation, loin de se limiter à 1882, avait été en réalité un processus de longue durée entre 1882 et 1914 pour ce qui concernait particulièrement les écoles de filles. J'ai repris il y a 5 ans le dossier de l'histoire de la mixité et le dossier du genre de la laïcité, c'est-à-dire la construction du masculin et du féminin dans le processus de laïcisation entre 1882 et 1905. Période dans laquelle s'établit un contrat de genre. Les filles et les femmes sont à la fois les vecteurs et les agents de la laïcisation, par exemple les institutrices des écoles normales, et aussi celles des résistances, les mères défendant les religieuses qui tenaient les écoles de filles en 1902-1904, sur lesquelles on a fait longtemps silence. C'est donc dans un entre-deux, entre reconnaissance des spécificités féminines, c'est-à-dire relevant d'une histoire sociale des femmes, et de l'histoire du genre, le gender, hein, relevant plutôt d'une histoire culturelle, appliquée à la discipline scolaire qu'est l'histoire, et à la construction de la nation, que je vais situer mon propos tout de suite. Ce propos utilisera largement, outre mes travaux, les travaux publiés que je m'efforcerai de citer, même rapidement, et en particulier de ma voisine de gauche. Depuis 30 ans, en effet, l'histoire de l'éducation s'est considérablement enrichie et complexifiée, comme le montre la revue Histoire de l'éducation, qui développe sur ce point des problématiques les plus neuves et les plus savantes. Il faut citer particulièrement 2 numéros de 2007. un sur l'éducation des filles du XVIIIe au XXIe siècle, dédié à Françoise Mayer, pionnière dans l'histoire de l'éducation des filles, plutôt dans l'enseignement secondaire, numéro co-dirigé par Pierre Caspar, Jean-Noël Luc et Rebecca Rogers, l'autre sous la direction d'Annie Bruiter, sur les pédagogies de l'histoire du XVIIIe au XXIe siècle, notez la même chronologie, qui met l'accent sur l'étude difficile des pratiques d'enseignement, que ce soit celle de l'histoire sainte ou celle du cours d'histoire, ausculté précisément par Angelina Ogier. Pour porter un regard croisé sur le masculin et le féminin et l'histoire enseignée à l'école primaire de la Troisième République, je vais rappeler quelques éléments très connus de beaucoup d'entre vous sans doute et partir aussi de questions simples qui paraîtront peut-être simplistes. L'histoire enseignée, elle est par qui et dans quelles conditions ? Cette histoire est enseignée et comment la cerner ? Par les programmes, les manuels ou les pratiques enseignantes ? La question est banale. L'histoire est enseignée à destination de qui ? De quels élèves ? Filles ou garçons ? Au-delà des normes et des représentations, comment percevoir les formes d'incorporation et d'intériorisation des leçons par les élèves, filles ou garçons ? Redoutable question pour les historiens ou les historiennes, redoutable question aussi, je crois, dans le présent. Quel est le rôle des disciplines scolaires, en l'occurrence de l'histoire, dans la fabrication des identités sexuées ? Quel est le rôle des curricula cachés ? Comment se construisent la citoyenneté et l'histoire de la nation dans l'éducation ? Enfin, quel est le genre des disciplines ? Cette histoire est encore en friche pour le genre des disciplines, j'entends. Une histoire à faire, et je ne vais essayer d'esquisser ici que quelques pistes. Alors, je vais examiner cela en trois moments. Premièrement, les apports récents de l'historiographie, quels questionnements ça pose. Deuxièmement, l'étude des enseignantes et des élèves et la transmission de l'histoire. Troisièmement, le genre de l'histoire expliqué à travers l'exemple de la nation. Alors, quels apports récents de l'historiographie ? Il faut, dans un premier temps, revenir sur la chronologie proposée, celle de la Troisième République. Comme le suggère Annie Bruiter, il est sans doute plus judicieux pour ce sujet de partir non de la Troisième République, mais de la loi du 10 avril 1867 qui fait de l'enseignement de l'histoire une matière obligatoire et qui remplace ainsi cette chronologie donc conduit à s'interroger sur le rôle réel de l'histoire sainte, ce que fait donc Annie dans l'article que j'ai cité. C'est l'œuvre donc d'un processus de longue durée qui implique une laïcisation de son enseignement. Annie a souligné aussi que l'histoire sainte avait été, avant 1882, un laboratoire de la pédagogie de l'histoire à l'école primaire. En 1882, l'instruction morale et religieuse est, elle aussi, remplacée dans les programmes de l'école primaire par l'instruction morale et civique, dans une sorte de, le mot est de Maurice Crubelier, de transfert de sacralité. Mais il ne faut pas oublier la permanence des devoirs envers Dieu qui existe jusqu'au programme de 1923. Il faudrait prendre en compte l'influence de l'histoire sainte bien après 1882. Compte tenu de l'importance de l'enseignement congréganiste pour les filles, au moins jusqu'en 1904, particulièrement dans certaines régions, l'Ouest, la Bretagne, c'est connu, mais aussi la bordure Est du Massif central, dans la Loire, par exemple, que j'ai étudiée, 80% des filles étaient dans des écoles congréganistes en 1882, elles sont encore 40% en 1902. Donc, bien sûr, on a diminué, mais encore, il y a encore 40% de filles qui sont donc éduquées par les religieuses. Il ne faudrait donc pas négliger le rôle de l'enseignement de l'histoire sainte dans la formation de la conscience historique de générations d'élèves, et particulièrement des filles, donc, et ce, à mon avis, au moins jusqu'à la guerre de 14-18. Il y a sans doute, de leur point de vue, non pas succession, mais chevauchement entre histoire sainte et histoire de France. Et sans doute plus de proximité que celle énoncée habituellement entre deux objets et manières d'enseigner l'histoire à l'école. Deuxième question problématique. L'enseignement de l'histoire sainte ou laïque est à replacer plus généralement dans la culture historique du XIXe siècle. De la loi Guizot de 1833 à la loi Duruy de 1867, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, l'histoire à l'école primaire est facultative. Dans ce cadre, la diffusion des éléments de l'histoire et ça je fais référence aux travaux de Christian Amalvi, le livre de vulgarisation donc, qui diffuse une culture historique non scolarisée. Cela passe par les romans historiques, les biographies, les reconstitutions théâtrales, les ouvrages pédagogiques, en particulier à destination des jeunes filles. L'histoire, donc, avant sa complète scolarisation, est alors pratiquée par des littéraires et des amateurs, je mets des guillemets amateurs, le plus souvent des femmes, à qui est attribué le qualificatif de femmes de lettres et non d'historiennes, ce qu'elles sont en réalité, parce qu'elles correspondent à l'écriture de l'histoire de la période. C'est ce qu'a fermement démontré dans sa thèse Isabelle Ernaud, et il y a un résumé de ses propos dans le bulletin numéro 1 de l'Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. L'invisibilité de ces historiennes est soulignée aussi par Nicole Pellegrin dans le livre qu'elle a dirigé, donc « Histoire d'historienne », qui a été publié en 2006. Ces œuvres d'historiennes sont le plus souvent édifiantes. Elles se focalisent sur des biographies des reines et des femmes célèbres et prennent parfois la forme de dictionnaire. Toute une littérature destinée aux demoiselles, donc très ciblée socialement, a ainsi fleuri dans le premier 19e siècle. Cette vulgarisation de l'histoire a été essentiellement l'œuvre des femmes. Ce qui pourrait apparaître et est qualifié aujourd'hui de petite histoire s'est épanoui dans un contexte où l'histoire, essentiellement philosophique ou littéraire, n'était pas encore la discipline positiviste, universitaire et masculine qui s'est organisée dans le second 19e siècle. Et lors de leur éducation, les institutrices qui exercent dans ce second 20e siècle ont baigné dans cette histoire littéraire. Troisième point. Les réformes républicaines ont eu un effet important sur l'offre d'enseignement pour les filles, c'est très connu. Mais il ne faudrait pas négliger l'enseignement congréganiste et l'histoire de son évolution dans ses contenus, qui a été étudiée entre autres par un livre donc, de Sarah Curtis, donc, qui a été traduit assez vite en France, sur l'enseignement au temps des congrégations dans le diocèse de Lyon. Le mythe de l'ignorance et de la faiblesse de l'enseignement congréganiste, très développé dans les rapports d'inspecteurs des débuts de la Troisième République, en particulier en histoire, est aujourd'hui contesté. Et l'appréciation d'un inspecteur primaire de la Loire disant que les élèves connaissaient plus les étapes du chemin de croix que les périodes de l'histoire de France ne se justifie plus à la fin du XIXe siècle. À l'égal de l'école républicaine, le programme des écoles catholiques met l'accent, à la fin du siècle, sur le patriotisme. Et on y lit aussi le Tour de France par deux enfants dans les écoles du diocèse de Lyon. Françoise Mayer a souligné le syncrétisme interconfessionnel des protestants et protestantes à la tête des établissements de formation des enseignants et des enseignantes. Si vous passez par là et que vous allez dans le hall de l'ENS, il y a un superbe buste de Félix Pécaud, par exemple, qui montre l'histoire donc, de cela, puisque c'était le directeur de conscience de l'école normale de Fontenay qui formait les professeurs d'école normale.
Et le directeur tout court, d'ailleurs.
Oui. Mais à l'instar de Jules Ferry, pour ses protestants laïcs, il n'était pas question d'instruire les filles autrement que pour les éloigner de l'Église et en faire d'excellentes mères de famille capables d'éduquer les futurs citoyens. La réalité a en fait dépassé ses intentions. Et le métier d'institutrice est devenu un métier recherché, un débouché pour les filles qui avaient obtenu le brevet. François Jacquet-Francillon a souligné en 2000 le scandale historiographique qui consistait à célébrer les hussards noirs de la République en oubliant que la laïcisation incomba surtout aux institutrices. Jean-François Chanet a étudié la féminisation de l'enseignement primaire en France, qu'on dénonce, vous savez, aujourd'hui, en montrant que le phénomène était bien antérieur à la guerre de 14-18, période où les femmes ont partout remplacé les hommes appelés au front, et qu'après la guerre, il n'y a pas eu dans l'enseignement comme ailleurs de retour en arrière. Il faut rappeler aussi tout simplement qu'à la fin de la Troisième République, deux tiers des instituteurs sont des institutrices, et que ce que l'on qualifie de féminisation du métier n'est pas un phénomène récent. Majoritairement, donc, ce sont des femmes qui ont enseigné l'histoire aux élèves de la Troisième République, diffusant ainsi leur sensibilité et leur approche des faits historiques. Quatrième point problématique, l'étude de genre, c'est-à-dire la construction sociale du masculin et du féminin, permet de souligner des relations marquées par la hiérarchie et le pouvoir entre l'État républicain masculin et des institutrices formées d'abord dans les cours normaux étudiés par Françoise Mayer, puis dans les écoles normales de filles. La formation dans les écoles normales conduit de fait à une incorporation des valeurs de l'État républicain. Mais la mise en œuvre des programmes à finalité patriotique développe une conception genrée de la nation où les filles sont appelées à jouer un rôle spécifique. La construction des identités féminines, celle des maîtresses comme celle des élèves, est ainsi en jeu. Deuxième point, donc, quel bilan donc de l'étude des enseignantes et des élèves ? Et je serai peut-être plus rapide sur ce point, je passerai un peu parce que c'est sans doute plus connu. Je veux quand même rappeler une évidence au départ. La Troisième République organise en 80-82 l'enseignement primaire avec une stricte séparation, mais avec une égalité apparente des sexes et non une ségrégation. Et l'architecture scolaire que vous connaissez tous témoigne de cela. Mais la loi Goblet de 86 précise, je cite, « L'enseignement est donné par les instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, les écoles maternelles, et dans les écoles ou classes enfantines et dans les classes mixtes, les écoles mixtes, pardon. Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointe sous la condition d'être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l'école. La loi dit indirectement la difficulté à admettre socialement pour le corps enseignant une proximité des sexes en dehors de la famille. Là encore, la réalité est bien différente. On sait que le manque de personnel pour les écoles laïques conduit le ministère de l'Instruction publique à décider de créer une école normale de filles dans chaque département. Mais la loi est appliquée avec plus ou moins de célérité. Qu'en est-il donc de cette séparation des sexes voulue par les textes de l'enseignement de l'histoire ? À coup sûr, une grande diversité de situations selon les lieux et la nature des écoles que soulignent tous les rapports des inspecteurs primaires. Celles et ceux qui sont passés par les écoles normales, de filles comme de garçons, sont une minorité. Je passerai sur les programmes identiques pour garçons et filles, mais des conditions d'études qui diffèrent selon les sexes, faisant des écoles normales de filles des couvents laïques, avec des règles très strictes de vie, de comportement et de tenue pour les élèves maîtresses, qui s'apparentent à une forme de clôture. L'éducation morale passe par d'autres canaux que l'enseignement. Elle s'inscrit dans les corps et les comportements par la présence continue, l'influence permanente de la directrice. Directrice tenue de faire une large place à l'enseignement des devoirs particuliers de la mère de famille et de la maîtresse de maison et d'organiser concrètement cet apprentissage, en particulier par le ménage dans les écoles normales de filles qui était fait par les élèves maîtresses. Le ménage, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Ah. Mais, nous aurons une discussion après, Marie, si tu veux bien.
Alors, l'histoire doit être racontée par des institutrices à leurs élèves, je cite, comme la mère raconte des histoires à ses enfants. Substituée à la figure maternelle, l'institutrice est assimilée au genre féminin, sa professionnalité est engommée. Cependant, pour les élèves filles, l'institutrice représente, comme le montrent les journaux intimes, les autobiographies et les entretiens menés dans pour des filles de l'entre-deux-guerres, un modèle et une figure forte d'identification. Voilà, alors j'essaye de ne pas trop être incohérente parce que j'ai supprimé une partie des choses.
Le problème, c'est que Michel avait préparé davantage et on lui a demandé de raccourcir, donc elle a supprimé des passages, mais du coup...
J'espère que ce ne sera pas trop incohérent.
Les liaisons d'une partie à l'autre n'est plus aussi aisée.
Voilà, il faut souligner la disparité des pratiques scolaires selon les régions, les localités et les individus dans cet enseignement primaire, donc devenu obligatoire. Même s'il est difficile de le généraliser, on peut dire que l'histoire est enseignée aux garçons de manière plus belliqueuse, alors que dans les écoles de filles, l'histoire fait plus appel à l'émotion et aux sentiments. Le rôle spécifique des institutrices est souligné dans l'apprentissage des devoirs patriotiques et républicains à l'égard des filles. Je cite juste un tout petit extrait de l'école du citoyen de 1899. L'homme seul aura le maniement des armes, fusils ou bulletins de vote. Il est le seul appelé à s'en servir dans la bataille ou dans l'élection. Mais la femme l'accompagnera de ses vœux et le soutiendra de ses conseils. C'est aux maîtresses laïques qu'il appartient de l'y exhorter et de l'y préparer. Il faut bien sûr introduire nuance et chronologie dans cette affirmation, et les études fines de pratique de classe le font. Ainsi, la guerre de 14-18 est un marqueur fort. Toutes les maîtresses et élèves ont été prises dans le tourbillon de la guerre patriotique, et les différences entre filles et garçons, de l'enseignement d'histoire aux filles et garçons, a paru s'estomper un temps. Olivier Loubès, qui a étudié manuel, rapport d'inspecteur et cahier d'élèves, note, quant à lui, que la culture de guerre s'enracine à partir de 1915 et qu'il y a une intégration des valeurs guerrières, y compris chez les filles et y compris dans l'enseignement catholique, où l'élan patriotique est coloré de foi religieuse. À la défense du sol de la patrie s'ajoute la volonté de détruire l'ennemi, détruire cette vilaine race, écrit une fillette de 10 ans. Progressivement, on constate cependant l'essoufflement de cette culture de guerre vers la fin de l'année 17. Elle est plus durable chez les garçons des écoles publiques. La culture de la paix, dont on a parlé ce matin, est anticipée dans les écoles de filles et elle se généralise après 1923 et le changement des programmes, en même temps que la morale et les devoirs envers Dieu s'effacent au cours moyen. Un enseignement pacifiste semble être distillé donc à la fin des années 20 et les leçons célèbrent la Société des Nations, on vient d'en parler. Comment mesurer plus précisément les différentiels de sexe dans l'étude de l'histoire? Alors ça a été fait par Brigitte Dancel dans « Enseigner l'histoire à l'école primaire de la Troisième République » à partir d'une étude serrée des copies de certificats d'études dans le département de la Somme. Alors là aussi je vais résumer. Les copies des garçons donc sont plus satisfaisantes pour ce qui concerne l'histoire politique. Les filles sont beaucoup plus précises, dans l'histoire de la Révolution française, les filles sont beaucoup plus précises sur la journée du 4 août, la conquête de l'égalité, les femmes en marche, et donc, la conquête de l'égalité, et les manifestations de femmes du 5 et 6 octobre, donc les femmes dans les manifestations. De la Révolution française, elles gardent des traces émotionnelles, l'enthousiasme des députés aux états généraux, ou des femmes ramenant la famille royale à Paris. Les garçons sont eux plus sensibles aux gains et aux pertes du territoire national. Mais ces élèves présentés au certificat d'études, qui sont les meilleurs élèves des écoles primaires, pour deux tiers d'entre eux connaissent mal l'histoire, par exemple de la Révolution française, alors qu'elle est au centre de l'histoire enseignée, comme lieu de filiation avec les institutions de la Troisième République. La question du suffrage dit universel de 1848 est maîtrisée par trois quarts des garçons, mais par moins de 50% des filles. De la Grande Guerre, les garçons ont une vision plus mondiale, moins patriotique que les filles, et une connaissance plus précise des combats. Conclusion, les garçons donc répondent mieux aux objectifs assignés à l'histoire à l'école primaire. Les filles apprennent mieux leurs leçons, elles répondent plus précisément à la question posée en reprenant les mots de l'énoncé. Mais tout dépend de la nature de l'école. Les élèves des écoles mixtes, rurales, ont de mauvais résultats, quel que soit leur sexe. Cela, donc, en tenant compte du fait que ce sont les meilleurs élèves qui sont présentés au certificat d'études, on peut conclure avec l'auteur que trois quarts des élèves ne réussissent pas à acquérir le socle de connaissances nécessaires à un apprentissage raisonné de l'histoire, ce qui limite singulièrement l'impact de mes observations. Dernier point, le genre de la nation, combien de temps j'ai, il me reste, à travers l'histoire enseignée.
Tu as encore 8 minutes.
Oh, bon, ça va.
Eh oui.
Le récit. Celui oral des maîtres et maîtresses pendant la leçon d'histoire, comme celui des manuels en écrit et en images, est propice à l'héroïsation. Les manuels scolaires, les livres de lecture courante, mais s'ils ne sont pas une source transparente, selon l'expression d'Annie Brutter, produisent un récit collectif de la patrie et de la nation, incarné par des héros et marqué profondément par le genre. Les héros de l'histoire de France, personnages exemplaires, qui se sont substitués, d'après Christian Amalvi, aux saintes femmes de l'histoire religieuse, forment une sorte de galerie des saints laïcs. Dans les biographies des hommes illustres étudiés en classe, il y a des formes possibles d'identification aux modèles dans lesquels les élèves, garçons, peuvent s'incarner. Entre les honneurs rendus aux grands hommes, en particulier dans le Lavis, et la fabrication des garçons comme petits hommes, sur le modèle des enfants héroïques de la Révolution française, Barra ou Viala, se forme le genre de la discipline historique. La mère de Barra éduque son fils, elle le façonne, mais elle ne le retient pas et le donne à la patrie. Pour le pouvoir politique, les mères sont des intermédiaires et il y a une forme d'héroïsation du sacrifice maternel, mais elles ne sont pas toujours présentes dans les manuels. La quasi-absence des femmes est à coup sûr un enjeu dans cette construction des identités scolaires et sexuées. Françoise et Claude Lelièvre ont souligné, dans l'histoire des femmes publiques racontées aux enfants, publiée en 2001, la figure négative dans les manuels scolaires des femmes au pouvoir, les mauvaises reines ou régentes. Elles ont des rôles repoussoirs, à l'exception de Blanche de Castille, qui s'épanouit en bonne mère, éducatrice du bon roi, le futur, donc, Saint-Louis. Elle ne pouvait, de ce fait, pas avoir été une mauvaise femme, femme de pouvoir, puisqu'elle avait éduqué ce bon roi. Catherine de Médicis, au contraire, de noir vêtue, est l'incarnation de ces mauvaises reines, désignées comme l'étrangère, l'italienne, fourbe et intrigante, contemplant avec plaisir les corps des protestants assassinés après la Saint-Barthélemy. Je passe sur les autres. Trois héroïnes ont cependant la faveur des manuels scolaires de la Troisième République, parce qu'elles ont su résister à l'envahisseur. Sainte Geneviève, qui a résisté aux hordes barbares, Jeanne Hachette, qui défendit les murailles de Beauvais, et Jeanne d'Arc. Cette dernière est une exception. D'ailleurs, c'est une exception dans le programme de 2008, elle y est encore. Donc, encensée par Michelet, et au sujet de laquelle la vie s'écrit, tous les Français doivent aimer et vénérer le souvenir de cette jeune fille qui aima tant la France et qui mourut pour nous. Le prestige de Jeanne d'Arc surpassa celle des héros masculins. Vierge, guerrière. Jeanne d'Arc est une héroïne révélée, transformée par Michelet en une incarnation de la France et de l'héroïsme moderne par sa capacité d'action. Dans le célèbre Tour de France de deux enfants, la mère est la figure de l'absente, mais elle se substitue, la France se substitue à elle. Pour le plus grand des garçons, le parcours va de l'école à la caserne en passant par l'apprentissage. Ainsi se forge son identité d'homme. Dans son texte célèbre, Ernest Renan a suggéré que les sentiments et les émotions jouaient un rôle crucial dans l'attachement à la nation. La Révolution française s'était engagée dans une politique d'assimilation de tous les individus et des groupes au sein d'une nation universelle et homogène. Les Français étaient censés partager des intérêts et des goûts communs. Les femmes, dans ce programme, occupent une place spécifique, comme mère patrie, c'est l'expression de l'époque, la patrie étant la mère des citoyens, une mère qui ne fait aucune distinction entre ses enfants. L'image maternaliste de la nation est ainsi accolée à l'État républicain, comme le soulignent Jennifer Hoyer et Anne Verjus. L'histoire attribue aux hommes la construction abstraite de l'État et de ses institutions, et aux femmes l'élaboration concrète d'une culture de la nation. Les citoyens devaient être amenés à ressentir que la République était un bon système politique. Cette réflexion permet de repenser la place de l'esprit et du cœur. Transformer les monarchistes en républicains, les sujets en citoyens et les catholiques en laïcs a été tout aussi essentiel que de créer un nouveau système de gouvernement. Pour cela, le cœur, celui qui exaltait l'avis dans l'enseignement de l'histoire, était aussi nécessaire que l'esprit, le foyer domestique aussi crucial que le Parlement. Il y eut donc tout un travail politique, émotionnel et intellectuel à accomplir, et l'on considérait qu'il relevait dans la famille du domaine des femmes, et que pour cela, il fallait les former à l'école républicaine. L'histoire scolaire, et particulièrement celle transmise par les institutrices, a joué à coup sûr un rôle dans cette construction politique de la nation et de l'État sous la Troisième République. Entre l'État républicain, incarné par le masculin, et la nation féminine, se construisent les identités de genre. Depuis la Troisième République, la discipline historique a considérablement évolué, les programmes et les pratiques d'enseignement aussi, ainsi que les manuels. Les auteurs des programmes de 2008 résonne comme si le passé se résumait pour l'essentiel aux grands hommes, qu'ils soient politiciens, philosophes ou peintres. Et même avec une erreur historique dans les programmes, le droit de vote n'a pas été accordé aux femmes en 1945, comme cela est indiqué, mais en 1944. 1945 est la date du premier vote des femmes métropolitaines aux élections municipales. Merci.